Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte la terrifiante histoire de Jean-Jacques. Jean-Jacques Martial. Un petit réunionnais de 7 ans qui, dans les années 60, sur ordre du gouvernement, comme 1600 enfants réunionnais, a été arraché à sa terre et à sa famille pour être envoyé dans la Creuse. Une histoire très douloureuse, mais qui se finit bien, que j'ai tiré de son livre paru aux éditions des Quatre Chemins, Une enfance volée. J'ai écrit cette histoire avec Marinette Lévy, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Jean-Jacques Martial. Je suis né à Saint-André-de-la-Réunion le 27 mai 1959. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu mes parents ensemble, et ils se sont séparés quand j'avais un an. Mon père s'est installé avec une nouvelle femme, qui évidemment ne nous supportait pas puisque nous n'étions pas d'elle, et ma mère avec un nouvel homme qui, pour les mêmes raisons, ne voulait pas de nous chez lui. Quand je dis nous, c'est moi, mon frère Bernard et ma sœur Léonie. Et donc, on est allé vivre chez ma mémé, dans une case au milieu de beaucoup d'autres. On était petits, on trouvait que c'était la belle vie. On montait au cocotier, au bananier, on croquait la canne à sucre à pleines dents, on jouait au foot pieds nus avec une boîte de conserve, on allait voir des combats de coq, on allait se baigner dans la rivière du Mât presque tous les jours, pendant que mémé lavait son linge. Je n'ai que des souvenirs heureux de cette époque. Heureux. L'amour de ma mémé, la bonne odeur du café grillé, le bruit de la serpe qui tranche la canne à sucre, le soleil, la brise, le ciel bleu, la mer toujours transparente. J'ai tout ça dans ma tête, encore aujourd'hui. Mais une ombre planait sur ce petit paradis. Une ombre qui avait la forme d'une deux chevaux camionnette. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque à La Réunion. On l'entendait arriver de loin. Et là, on se mettait à courir. On allait se cacher dans les champs de canne. Pourquoi ? Oh, je vais vous expliquer. L'État français avait décidé d'envoyer les orphelins de La Réunion en France. Comme ça, ils faisaient d'une pierre deux coups. Ils faisaient baisser la misère dans l'île. Et ils repeuplaient la campagne française. Et dans cette camionnette, il y avait donc les gens de la DAS qui venaient avec le garde champêtre prendre les enfants par deux. J'ai vu des copains disparaître d'une heure à l'autre. On ne les a jamais revus. Et quand il n'y eut plus assez d'orphelins, ils ont pris des enfants comme moi. Des gamins qu'ils ont jugés abandonnés. Un jour, j'ai 7 ans, la deux chevaux vient pour moi. Et pourtant, ma mémé s'occupe bien de moi. Je ne me sens pas du tout délaissé. Elle proteste, ma mémé. Et pourtant, il faut partir. Ils emmènent aussi un autre garçon qui vit chez nous. On était tellement proches que j'ai toujours cru que c'était mon frère. On est montés tous les deux dans la camionnette grise. On n'a rien eu le droit d'emporter. Ni vêtements, ni jouets, ni souvenirs, rien. Un dernier baiser à ma mémé, un dernier regard à la maison de mon enfance. Et la camionnette a démarré. On a beaucoup pleuré dans la voiture. On se retrouve à l'aéroport, à Saint-Denis. Bonjour les enfants. Alors, vous partez pour Paris. Et là-bas, il y a une tante hein, qui vous attend. Elle prendra bien soin de vous. Et dans l'avion, il y aura aussi une personne pour s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. On monte dans une caravelle jusqu'à Madagascar. Et puis dans un Boeing 747. Et on arrive à Paris, à l'aube. Un matin gris d'hiver. Tous les deux, main dans la main, en short, en chemisette et en tongs. Une tata nous attend, mais bien blanche. Bonjour les enfants. Venez, je vous emmène. Elle m'a emmené dans un foyer, et mon frère dans un autre. je ne l'ai jamais plus revue. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis resté dans ce foyer un ou deux mois, je ne sais plus. Et puis un jour, avec d'autres enfants de La Réunion, on nous a mis dans un train pour Guéret, dans la Creuse. Dans le train, les moniteurs n'étaient pas méchants. Mais personne n'a pris la peine de nous expliquer où on allait. On allait dans un autre foyer, où j'ai dû rester 6 mois. Et puis un beau jour de printemps, je vois arriver une dame, la soixantaine, petite, un peu voûtée, habillée comme une fermière avec une robe à pois, un châle, et sur ses cheveux gris un chapeau de paille, et un regard, un sourire qui me rappelle ma mémé. Dès que je la vois, je sens comme une chaleur. Elle me caresse les cheveux, elle me prend la main comme ça, elle me serre dans ses bras, et elle m'embrasse. J'ai l'impression de revivre. Ouf ! Comment t'appelles-tu donc ?
Jean-Jacques.
Ben moi, je m'appelle Amélie. Tu veux venir habiter chez moi ?
Mais oui, bien sûr.
Je ne lui lâche pas la main. J'ai peur de la perdre. Elle signe quelques papiers et on va attendre le car pour la chapelle Taillefer, à 18 kilomètres de Guéret. Mon petit Jaco, je t'emmène dans notre ferme, le Joucha qu'elle s'appelle. Et là-bas, il y a mon Alphonse qui nous attend. C'est mon mari. Tu verras, il est très gentil. On est un peu vieux tous les deux. Puis tu verras, tu seras bien chez nous. Le car arrive. Elle me présente au chauffeur, elle le connaît. Regarde donc qui j'ai là. C'est le petit gosse que je suis allé chercher à la DAS. Je le ramène à la ferme. On traverse une grande forêt, un vallon, il y a des fermes, du bétail, des tracteurs. Oh, je commence à avoir sacrément mal au cœur. Et puis, on arrive sur une grande place avec sa vieille église, sa poste, son café. Et là, il y a tout le village qui attend. Le forgeron, le sabotier, l'épicier, le coiffeur, la couturière. Ils sont venus me voir. L'enfant qu'Amélie est allé chercher au foyer. Et ils m'accueillent, et ils m'embrassent. C'est la première fois qu'il voit un petit noir. Mais il montre de la compassion pour ce qui m'est arrivé. Et il m'accepte tout de suite. J'ai tout de suite l'impression de faire partie de leur existence. Et donc à pied, on va à la ferme. Et la voilà donc au loin, ma nouvelle case, tout en pierre avec de jolis volets verts, entourée d'un jardinet avec des fleurs, des légumes et une chienne. Comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle Mignonne.
Oh toi, je serai ton copain. Je te promènerai. Je te donnerai à manger.
Ah, enfin vous voilà. Il me tardait de te voir, mon petit. Comment t'appelles-tu ?
Jean-Jacques Martial. Et toi, c'est Alphonse ? C'est Amélie qui me l'a dit.
Ils se penchent, ils m'embrassent, et ils me font visiter la case. Dans l'entrée, sur un tabouret, il y a une serviette, un gant, un savon et puis une petite glace. Et là, il y a une porte qui ouvre sur une salle à manger, avec une table immense, et puis une grande cheminée, une belle horloge, et deux grands lits gigantesques, en bois sculpté.
Alors bon, Amélie, elle dort dans une autre pièce, et nous, on va dormir là, tous les deux. Moi, mon lit, c'est celui qui est près de la cheminée, et le tien, ben, c'est l'autre.
Je rêve déjà que je dors, et je suis sûr que je vais faire de beaux rêves.
J'ai tata, hein? Et Alphonse sera tonton. Et toi, tu seras notre petit oiseau des îles, hein? Tu verras. On va être heureux ensemble.
Ils m'ont aimé. Ils m'ont choyé. Je n'étais pas heureux parce que la blessure était là, mais j'étais serein. J'étais confiant. Et moi aussi, je les aimais. Ça a duré 3 ans. Puis un dimanche d'octobre, un jour de pluie. Ça n'était pas une de chevaux, mais c'était une AMI 8. C'était presque pareil. Sont arrivés Nicole et Roland. Elle, 22, 23 ans, lui, dégarni, plus âgé. Et la tata Amélie m'a dit
« Ils sont venus te chercher pour t'amener à la montagne, hein, toi qui devais te faire du ski. »
Tata et tonton n'avaient pas l'air d'avoir de chagrin. Du coup, moi, j'étais fou de joie. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé d'aller chez la maîtresse pour lui rendre les livres et les cahiers? J'ai laissé mon nounours sur mon lit, j'ai embrassé Alphonse et Amélie et je me suis assis dans la voiture, à côté de Nicole qui se montrait affectueuse. Mais moi, je ne ressentais rien pour ces gens. Le courant ne passait pas. On a roulé des heures et des heures, on a dormi à Tours chez des amis, on a roulé encore longtemps, et on est arrivé en haut d'une colline. Et là j'ai vu la mer. Et j'ai compris tout de suite qu'on m'avait menti. On m'a menti. Alphonse et Amélie m'ont menti. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Ils seront malheureux? Et les copains au village? Je me fais un serment. À partir de maintenant, je ne parlerai plus. Je dirai oui, je dirai non, mais je ne parlerai plus. Bien. Eh bien, nous voilà à Saint-Vallaougue, dans la Manche. Et là, voilà ta nouvelle maison. On a 2 petits garçons. Ils nous attendent avec impatience. Il y a Boris qui a 4 ans et Mehdi qui a 2 ans. J'ai 11 ans. Et à partir de maintenant, accrochez-vous. Parce que maintenant commence le moment le plus pénible de ma vie. Les enfants, on a une surprise pour vous. Voilà. Vous avez un grand frère. Il s'appelle Jean-Jacques. Et là, je me retrouve face à 2 enfants tout blancs. Je les embrasse. Ils me parlent, mais je ne réagis pas. Je suis encore sous le choc de la séparation et du mensonge. Je ne sais pas quoi faire. Crier? Me sauver? Me recroqueviller dans un coin? Une dame âgée s'approche.
Bonjour. Je suis la mamie de Boris et Mehdi, et je serai donc aussi la tienne.
La maison est beaucoup plus moderne. La chambre est petite, mais elle est mignonne, les murs sont bleu ciel, et sur mon dessus de lit, il y a des voitures de toutes les couleurs. On mange, les enfants font les fous, mais moi, je ne dis rien. Arrive l'heure du coucher, Nicole range mes affaires, elle me parle, hein, mais je suis devenu muet. Je ne serai plus Jaco, le petit oiseau des îles. J'ai pris un bain chaud pour la première fois de ma vie. Je me suis brossé les dents aussi pour la première fois. Et je suis allé à l'école. J'ai passé toute ma journée à pleurer. Et quand la maîtresse, Madame Leborgne, m'a apporté mes livres et mes cahiers, je me suis aperçu que j'avais changé de nom. Je ne m'appelais plus Jean-Jacques Martial. Je m'appelais Jean-Jacques B. Mais de quel droit ils ont fait ça? De quel droit? Ils veulent m'adopter. Est-ce que j'ai d'autre choix que de dire oui? Mon premier Noël chez eux est impressionnant. Je reçois un nouveau vélo, 2 voitures télécommandées, des vêtements, des chocolats. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est une carte postale d'Alphonse et Amélie. Je découvrirai plus tard qu'ils ne m'ont pas abandonné. J'étais juste chez eux, dans l'attente d'être adopté. Un été, Roland me ramène là-bas. Allez, vas-y. Tu as une demi-heure, je t'attendrai dans la voiture. 30 minutes, alors que je ne les ai pas vus depuis 3 ans, les salauds.
Oh, mon petit oiseau des îles, mon petit Jaco. Enfin, te le voilà.
Ils sont devenus vieux. Ils me disent que sans moi, leur vie s'est éteinte. J'y suis retourné l'été d'après. Mes nouveaux parents sont de gauche. Mon père Roland est professeur d'histoire géo au collège d'à côté et il est élu communiste au conseil municipal. Et ma mère Nicole est écologiste. Ils font chambre à part. Et elle a un amant, je le sais, je l'ai vu. J'ai 14 ans maintenant. Et un jour, avec Roland, on va à Paris rejoindre Nicole à une manifestation d'écolos. Et on s'arrête en route pour dormir à l'hôtel. Et après dîner...
Tiens, mon petit Jean-Jacques, voilà un verre de whisky. Il faut que tu deviennes un homme, hein ?
J'en bois deux. Et là, je commence à voir flou. Et à rigoler. Alors il m'aide à me coucher.
Et il me viole ! Il me viole !
Ce sera notre secret. À tous les deux.
Je n'arrive plus à dormir. Je le hais. Je le maudis.
Je n'ai rien dit, bien sûr. Un mois plus tard, ils ont reçu le décret d'adoption simple. À la maison, ça barde entre Nicole et Roland. Et à Pâques, je la vois partir avec Boris et Mehdi, la voiture chargée jusqu'à la gueule. Et après les vacances, elle ne revient pas. Et une fois de plus autour de moi, le monde s'écroule. Et maintenant, Roland est en dépression. Et il continue de me violer régulièrement. Et moi, je ne peux rien dire. J'ai peur de retourner à la DAS. Alors je me tais. Je fais semblant. Les années passent. Je n'ai plus aucune nouvelle de Nicole, ni de Boris, ni de Mehdi. Roland a vendu la maison. On vit dans une caravane, comme des clochards. Alors je devance l'appel pour partir faire mon service. Et puis finalement, je suis réformé, je suis trop maigre, 49 kilos. Et là, je décide de prendre le large. Pendant 4 ans, en stop, je traverse la France de long en large. Je travaille de ci, de là. Et un jour, à Valmorel, dans les Alpes, je tombe sur une fille du village, une fille de Saint-Va, Madeleine. Et je tombe amoureux. Et du coup, je retourne à Saint-Va. On loue une petite maison à 200 mètres de la mer. On a des poules, un jardin, des légumes. Mais Roland, mon père, est toujours là. Et la famille de Madeleine l'invite à dîner. Et il ose jouer les victimes.
Tu m'as abandonné, mon petit Jean-Jacques, hein? Tu t'occupes plus de moi.
Et évidemment, Madeleine et ses parents ne comprennent pas pourquoi je suis si dur avec lui. Je me suis marié avec Madeleine. On a eu une petite fille, Morgane, et un petit garçon, Sidney. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. On a été heureux. Et mon soi-disant père Roland était toujours là, dans les parages. Et Madeleine ne comprenait toujours pas pourquoi je le rejetais. Bref, à peu près vers mes 36 ans, j'ai fait 2 infarctus. Et dans la foulée, une dépression. Et finalement, une tentative de suicide. Je me suis tailladé les veines. Et c'est donc mon médecin de famille qui a été le déclic.
Je pense, Jean-Jacques, que vous devriez consulter un psychiatre.
Et le psychiatre, je lui ai tout raconté. Mon départ forcé de la Réunion, mon arrivée dans la Creuse, mon 2e arrachement, le divorce de Roland et Nicole, les viols. J'ai enfin craché ce qui me pourrissait la vie. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai tout dit à Madeleine. Elle ne m'a pas cru. Il a fallu que le psy intervienne pour qu'elle comprenne. Et puis je suis allé chez Roland.
Je viens te prévenir que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Car j'ai l'intention de porter plainte.
J'ai porté plainte à la gendarmerie. Ça a été dur, mais il n'y a pas eu de suite. Selon le procureur, je lis, l'action publique se trouve éteinte du fait de la prescription, les faits étant trop anciens. C'est comme ça. Et maintenant, je ne pense plus qu'à une chose. Je veux retrouver ma famille. Pourvu qu'ils ne soient pas tous morts. Alors j'écris à la mairie de Saint-André de la Réunion, est-ce que j'ai encore de la famille? Ils mettent un temps fou à me répondre. Et puis un jour, une enveloppe marron arrive dans ma boîte aux lettres. Ma maman est vivante et elle attend le plus vite possible de mes nouvelles, comme ma sœur Léonie et mon frère Bernard. J'ai leur adresse, j'ai leur numéro de téléphone. Je vais d'abord appeler ma sœur. Oh, j'y arrive pas. Madeleine, fais-le, va. Tu peux appeler à ma place.
Allô?
C'est son mari qui répond. Léonie dort, il est 4h du matin, mais il va la réveiller. Et elle parle d'abord toutes les deux avec Madeleine. Moi, je ne peux pas. Et puis elle me la passe. Et là, j'apprends que mon père est mort. Que jusqu'au bout, il a espéré me revoir. Et le lendemain, je parle à ma maman.
Oh, bonjour, mon fils. Mon Jean-Jacques. Oh, mon petit. Je pensais plus te revoir. Je te croyais mort. Je t'ai jamais oublié, Jean-Jacques, jamais. Je suis si impatient de t'embrasser. Oh, oh, oh. Il me tarde de te toucher.
Et après, j'ai parlé à mon frère, Bernard. Nous irons à la Réunion, aux prochaines vacances, avec Madeleine et les enfants. On s'est écrit, on s'est envoyé des photos, et j'ai demandé au garde des Sceaux qu'il me restitue mon nom. Et on s'est envolé pour la Réunion. Et au petit matin, par le hublot, j'ai aperçu mon île, au loin. En sortant de l'aéroport, j'entends des Jean-Jacques partout. Ils sont venus à 30. Et je vais droit vers ma maman. Et je l'embrasse. Et je la serre. Et mes enfants, Morgane et Sidney. Tu marches pieds nus, mamie? Je suis un homme heureux. Je suis Jean-Jacques Martial. 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 Je suis chez moi. J'ai retrouvé mon nid. Alphonse et Amélie, qui sont morts depuis, auraient été si heureux de ce qui m'arrive.
Aïe, planter un mauvais planter. Parce qu'il est mauvais, parce qu'il est.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.